Donc je rappelle d'abord, il faut vraiment avoir en tête une autre question générale qui nous pousse dans tout ceci. C'est la question suivante. Dans quelle mesure peut-on concevoir ressort du nous, un ressort de l'être ensemble, un ressort de la communauté, qui soit un ressort pensé du côté du vivant, du désir, de la vie, et pas un ressort du côté, c'est-à-dire de la négation, de l'absence, de la perte, de la menace commune, de la mort. Voilà la question de fond. Alors cette question, encore une fois, suppose d'abord, c'est ce que nous avons entrepris, de comprendre complètement comment la tradition de pensée dominante qui nous agit jusqu'à aujourd'hui, de pensée du collectif, de l'être ensemble, de la communauté, est fondée sur le ressort de la mort. Que tous les grands systèmes de pensée, de philosophie éthique, de philosophie politique, mais après, le problème c'est que ce n'est jamais seulement une question de cercle de philosophes, c'est qu'après ça affuse, ça diffuse dans toute la société, et que par exemple la façon de concevoir la politique jusqu'à aujourd'hui, la pensée même inconsciente en partie qui agit, ceux qui sont censés organiser l'être ensemble d'une société, donc a priori les politiques, et bien cette pensée encore aujourd'hui est basée sur cette tradition de la menace, de la mort, au centre de ce qui peut fonder l'être ensemble. Donc, dans un long premier temps, il nous faut entreprendre d'approfondir ce constat, d'en comprendre l'origine, les tenants et aboutissants, les mécanismes, pour ensuite, et ce sera la seconde partie du cycle, tenter de voir, avec quelques points d'appui qui existent quand même, je pense à des gens comme Rousseau, je pense à des gens comme Lévinas, pour ne donner que deux noms, Emmanuel Levinas, comment il est possible de prendre le problème autrement. Voilà bien la question qui doit nous venir. Alors, l'autre fois, nous avons entrepris, sachant que, souvenez-vous, cette année, j'ai décidé de laisser de compter l'Antiquité grecque, Platon, Aristote, notamment parce que là, nombreux l'an dernier, on a vraiment exploré aussi bien Aristote que Platon, donc on pourrait revenir de notre manière, mais enfin, c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé au-delà de l'Antiquité. Donc, nous avons attaqué un gros morceau, si j'ose dire, qui est la philosophie chrétienne naissante. La philosophie chrétienne naissante, avec deux figures qui sont les deux figures majeures, je ne vais pas revenir dans les détails, qui sont d'abord, évidemment, Paul de Tarse, T-A-R-S-E, c'est-à-dire Saint Paul pour les chrétiens, l'apôtre Paul, donc au tout début du christianisme, et ensuite, et c'est surtout sur lui que nous allons nous arrêter, celui qui est considéré comme le principal père de l'Église, pour reprendre la terminologie propre au christianisme, le père de l'Église, c'est-à-dire le père fondateur de la pensée chrétienne, qui est Augustin. Augustin d'Hippone, c'est-à-dire pour les chrétiens, Saint Augustin. Et donc, à travers ces deux figures, donc la dernière fois, j'ai longuement présenté la vie et l'évolution de la pensée d'Augustin au carrefour d'influences déterminantes. Donc, je ne vais pas revenir sur tout cela. Sa conversion, Augustin était un païen, comme on dirait, nourri au lait de la pensée gréco-latine, très influencé par le platonisme, les néo-platoniciens, qui étaient, pour les derniers d'entre eux, quasiment ses contemporains, connaissaient par cœur. Et c'est à travers une figure, entre parenthèses, comme Augustin, qu'on peut comprendre la connexion qui s'est opérée avec toute la tradition de pensée grecque, platonicienne, qui est une pensée athéologique, et la philosophie chrétienne. La connexion se fait notamment à travers des philosophies, enfin des figures comme Augustin, qui, du fond de la tradition platonicienne et néoplatonicienne, pense une vision du monde et de l'homme dans l'horizon du christianisme, et notamment à partir de l'enseignement des épîtres de Paul. Alors, Paul, proprement dit, qui est le premier, qui est véritablement le fondateur de la pensée chrétienne occidentale, de l'Église occidentale. Souvenez-vous, l'autre fois, j'avais montré comment il y a eu un épisode très intéressant au tout début, aux prémices du christianisme, entre l'Église de Jérusalem et la figure de Pierre, Saint-Pierre, et Paul, la figure de l'Église romaine. Pierre étant véritablement l'inventeur de ce qu'on appelle couramment à tort le judéo-christianisme. C'est-à-dire que Pierre est véritablement quelqu'un qui pense le christianisme complètement de l'intérieur du judaïsme, de la pensée juive. Alors que Paul, mais ce courant-là du christianisme, l'Église de Jérusalem, ne va pas avoir de postérité. Il y a eu des combats, et d'ailleurs il n'y a quasi pas de textes, ce sont des textes apocryphes qui permettent de vraiment connaître, et que c'est plus diffusé, cette source-là chrétienne. Par contre, évidemment, grâce à Paul, l'Église de Rome, et ce qui va connaître une postérité unique au monde, d'une certaine manière, unique dans l'histoire du monde. Unique dans l'histoire du monde, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir en tête, quoi qu'on en dise et pense par ailleurs, que c'est probablement le christianisme paulinien. Paulinien, c'est, là, vous voyez, c'est le qualificatif qui désigne ce qui est relatif à Paul. Comme le prénom Pauline. Donc, il faut reconnaître le fait que cette pensée paulinienne, cette tradition paulinienne, a su instaurer une institution d'une durée inégalée par ailleurs. D'une durée inégalée, c'est-à-dire que l'Église romaine est la seule institution, au sens précis du terme institution, qui a une durée aussi remarquable dans le temps. Alors vous m'objecterez que, par exemple, le judaïsme est plus ancien que ça, mais le judaïsme ne s'est pas diffusé à travers, justement, la construction d'une institution. C'est toute la différence. D'ailleurs, c'est le contre-pied beaucoup plus intéressant à frotter par rapport à la pensée de la permanence humaine à travers l'institution. Bref, donc, ceci pour dire que la pensée de Paul, ben, c'est du solide, c'est du béton, si je veux dire. C'est du solide, de sérieux, du béton. Alors, un mot quand même, avant d'en venir directement à Augustin, à travers les textes que je vous ai donnés, qu'on va regarder selon certains plus ou moins de façon approfondie, vu que Augustin, évidemment, pense à partir de Paul. Paul, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que... Paul, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, véritablement, il fonde donc l'idée de communauté chrétienne, de communauté humaine chrétienne. Alors, c'est une communauté qui est pensée et qui aura une postérité même laïque, même dans toutes les philosophies laïques, extrêmement, extrêmement importante. Il pense la communauté selon un lien vertical, de verticalité. De verticalité, c'est en clair, c'est assez simple la pensée de Paul, la communauté est fondée sur la participation des hommes, participation eucharistique au corpus Christi, au corps du Christ. C'est la communion. Et le corps du Christ étant représenté par l'Église. Et c'est là qu'on voit ce qu'est au fondement l'idée d'une institution. Une institution, c'est une instance de représentation. De représentation symbolique. C'est-à-dire qu'il est évident que le corps du Christ, en tant que tel, quoi qu'on pense de ce qu'il est, on ne peut l'appréhender, l'approcher qu'à travers des représentations humaines. Et précisément, la tour de force de Paul, c'est de créer une communauté qui est une communion dans le corps du Christ, unie, unifiant, un seul corps. On est tous un seul corps à travers le corps du Christ, mais ceci n'est pensable et actif, anthropologiquement parlant, qu'à travers la possibilité d'une représentation de ce qui est au fond un mystère. Le christianisme en parle comme mystère. Une représentation permise par une institution concrète, historique, qui est l'Église. Mais où ceci s'institue comme... où la communauté humaine s'institue, qui est une communauté chrétienne en l'occurrence, selon un plan purement vertical, c'est que derrière cette communion, c'est ce qui est structurant de l'être ensemble, c'est la relation homme-Dieu. Le corps du Christ étant représenté par l'Église, étant en quelque sorte une médiation qui permet d'être ensemble, dont la clé de voûte est la relation homme-Dieu. C'est le grand philosophe, je ne sais pas si on aura le temps de le prendre, Hegel, philosophe allemand Hegel, qui reprendra complètement cet héritage chrétien d'ailleurs, et d'où le fait que chez Hegel, la notion de médiation, le concept de médiation est absolument central. Il faut des intermédiaires, en quelque sorte. Alors, ajoutons ceci encore du point de vue de Paul. La communauté chrétienne permise par la médiation de l'Église comme communion dans le corps du Christ n'est possible parce que Jésus, le Christ, est mort. Mort et ressuscité, mais mort du point de vue de l'histoire humaine. Donc, c'est là que l'on retrouve la base même de cette pensée de la communauté organisée autour de l'Église de la mort. C'est qu'il a fallu la mort d'un homme-Dieu, mais la mort du point de vue de son versant humain, du point de vue de l'homme. Il y a une asymétrie qui est assez intéressante à observer. C'est une pensée philosophique très profonde, entre parenthèses, qu'on ne peut pas évacuer comme ça. On a tendance à dire que c'est un tour de passe-passe du christianisme, qui est qu'un homme-Dieu de propre. On peut dire également que le christianisme joue sur tous les tableaux à la fois. C'est-à-dire qu'en gros, d'un côté, on le considère comme un homme, mais en fait, c'est pas un vrai homme, c'est un dieu. Donc s'il est mort, ça triche, parce qu'en fait, c'était un dieu. S'il a souffert, c'est pas une vraie souffrance, parce qu'en fait, comme il était dieu, de Dieu et dieu, ben, il n'a pas vraiment souffert. Bon, toutes ces objections un peu triviales, elles ne prennent pas en compte la mesure de la complexité et de la subtilité de cette pensée. C'est-à-dire que c'est une pensée qu'on retrouvera par la suite, d'ailleurs, et qui n'est pas que propre au christianisme, qui s'ancre pour le coup aussi dans d'autres traditions, par exemple dans le judaïsme. C'est-à-dire qu'il faut penser, si on veut considérer sérieusement l'hypothèse d'un absolu, d'un principe absolu qui aurait le nom Dieu, qui a un nom qui ne veut rien dire, Dieu, si on veut penser que le monde n'existe qu'à la condition de pouvoir penser un principe absolu, c'est-à-dire séparé, qui est Dieu, alors ce à quoi nous invite le christianisme et à travers la figure de Jésus, il faut le penser sérieusement jusqu'au bout. C'est-à-dire, en gros, il y a deux plans qui entretiennent une relation asymétrique, où il n'y a pas de réciprocité de point de vue. C'est-à-dire qu'en gros, le plan humain et le plan divin. Et pour penser, il faut penser successivement ces deux points, sachant qu'ils n'amènent pas le même point de vue, que les deux points de vue ne sont pas réciproques et ne peuvent pas se rencontrer. Contrairement à la façon de considérer anthropologiquement la réciprocité humaine, quoi, on dit, le point de vue de l'un peut se substituer au point de vue de l'autre et réciproquement, c'est-à-dire que c'est des points de vue qui peuvent se rencontrer, ils sont sur le même plan. Je crois qu'il faut accepter l'effort de penser à quoi ça cite Paul, que les deux plans humains et divins sont non réciproques. C'est-à-dire qu'il faut penser d'une façon, sur ce point de vue du plan humain, et penser les choses d'une autre façon, si on se situe du point de vue du plan divin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réciprocité. Donc concrètement, c'est ce que veut dire cette énigme selon quoi Jésus est une figure homme-dieu. C'est-à-dire qu'il faut penser le fait que, par exemple, du point de vue humain, Jésus est un personnage dans l'histoire, qui a eu une vie historique, il faut penser qu'il est réellement mort et que c'est ce qui donne la possibilité de la communauté humaine réconciliée. Il faut penser qu'il est réellement mort. Il faut penser que du point de vue facette divine, sur le plan de Dieu, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Alors, est-ce qu'on est sûr qu'il est mort comme personnage historique ? Alors, j'ajouterai quelque chose par rapport à ça, parce que c'est déterminant, y compris par rapport à l'idée de communauté qui est en fait pensée de façon double. Juste, je m'arrête quand même avant sur la question de historiquement, est-ce qu'on sait c'est mort ce personnage ? C'est une question, je crois, sauf si on découvrait des manuscrits supplémentaires, heureusement, et qui seraient des textes donnant un accès direct, c'est une question qu'on ne résoudra jamais pleinement, quoi, parce que les traces historiques sont beaucoup trop fragmentaires, au fond, beaucoup trop fragmentaires. Parce que si, il y a les évangiles de ceux qui étaient des témoins, sauf qu'on peut les mettre en cause comme des textes mythologiques. Au fond, est-ce que cette question est importante ? Je dirais qu'il faut la déplacer du plan. C'est l'erreur qu'on commise et que commettent encore certains courants du christianisme, je pense notamment à des courants issus du protestantisme. Prenez un exemple, les témoins de Jéhovah, qui considèrent que la vérité de leur message, la vérité de leur doctrine, ne doit être fondée que sur la preuve historique. Donc ils s'acharnent à trouver toutes les preuves pratiques historiques de la véracité des textes sur lesquels ils se fondent. Je pense que c'est un effort vain, parce que les traces historiques sont toujours fragmentaires, très fragmentaires, et que d'autre part, elles sont toujours sujettes à interprétation. C'est bien le problème de l'histoire, c'est pas parce qu'on a certains documents que ça établit une vérité absolue. Je vous renvoie notamment à tout ce que peut évoquer, parce que c'est une question majeure, l'historien Patrick Boucheron, par exemple. En fait, ou alors, quelqu'un encore de plus important, Carlo Ginzburg, le grand historien italien, qui est probablement le plus grand historien mondial vivant aujourd'hui. Ginzburg évoque que l'histoire, le travail de l'historien, c'est presque comme un travail de policier ou de magistrat. C'est un travail d'enquête où il est à la recherche de traces qui sont autant d'indices et qu'après il faut faire parler ces indices. On sait, n'importe quel policier honnête ou magistrat honnête ou procureur honnête, sait que les indices ne font pas preuve absolue. On en reste à la construction d'une représentation de l'histoire qui en font une hypothèse. Donc, je crois que la question de savoir si Jésus est un personnage historique qui a vraiment vécu et qui est mort et qui est ressuscité ensuite, c'est une question qui n'aura jamais de réponse sûre, quel que soit le point de vue où l'on situe. Et du coup, je soumets à votre sagacité le fait que peut-être que cette question, du coup, n'est pas importante. Mais si on situe les choses d'un point de vue, disons, philosophique ou métaphysique, je crois que même du point de vue de la... Si on examine la pensée chrétienne comme une vision de l'homme et du monde, une vision philosophique, une pensée philosophique, on peut faire l'économie du plan de l'histoire. C'est-à-dire que je disais qu'il y a un lien très fort, à travers Augustin en particulier, entre la tradition platonicienne et néoplatonicienne et la philosophie chrétienne. Dans le platonisme, on peut parfaitement entendre l'asymétrie que j'évoquais entre un plan humain, des corps inscrits dans le monde, et un plan divin. On peut parfaitement le penser, ça, dans l'horizon du platonisme, mais encore plus du néoplatonisme. C'est-à-dire d'un point de vue strictement païen. C'est-à-dire qu'au fond, mais je vais venir un peu plus tard de façon, mais j'annonce juste la question. Paul, et a fortiori après Augustin, sont amenés logiquement, à partir des prémices que je viens d'évoquer, à penser qu'il y a deux communautés, il y a deux cités, qui ne coïncident pas du tout. Il y a la cité terrestre, mondaine, qui est dans l'histoire. Et il y a la cité céleste, la cité de Dieu, la cité céleste. Et cette dualité, on va la retrouver d'un bout à l'autre de la pensée chrétienne, qui est fondée sur toutes les binarités trouvées dans les textes anciens. Mais je ne veux pas en dire plus à l'instant, parce qu'on va y venir après, à travers Augustin, et je les annonce, c'est les binarités Sarah-Agar, Isaac-Ismaël. Les binarités ensuite, c'est pas chronologique ce que j'ai dit, vraiment, Cain-Abel. Et ensuite, alors, binarité dans l'histoire que pense Romulus et Rémus. Alors, pour le dire encore autrement, pour que ça soit bien clair pour tout le monde et que ça relie tous les aspects du problème, de la façon de dire cette question-là, qui est quand même une question centrale, qu'on retrouve aussi dans le platonisme, c'est est-ce qu'on peut, en tant qu'homme, corps, matière, inscrit dans l'histoire, est-ce qu'on peut néanmoins avoir une saisie, une compréhension, une intelligence de l'invisible? Est-ce que c'est la question du rapport entre le visible et l'invisible qui est en jeu, hein, qui est une question qui, formulée en ces termes-là, est souvent casse-gueule, si j'ose dire, parce que très souvent elle prête lieu à suite des interprétations et des discours complètement mystiques à bon compte. Donc c'est dangereux de le poser en ces termes-là. Mais il faut se rappeler qu'on peut le poser en ces termes-là, en termes parfaitement non mystiques. Et encore une fois, Platon et les néoplatoniciens ont posé cette question-là d'emblée en termes pas du tout mystiques, en termes métaphysiques, philosophiques. C'est, en d'autres termes encore, c'est l'allégorie de la caverne de Platon, c'est précisément ça qui est posé. Alors on va y revenir. L'allégorie de la caverne, je rappelle, tout le monde on l'avait abordé, mais je rappelle, finalement, c'est dans La République de Platon, donc ce gros livre sur justement la construction de la communauté humaine, de la cité. C'est une histoire que raconte Platon, une fable. Les hommes vivent dans une caverne, au fond d'une caverne, qui n'est que vaguement éclairée par la lumière extérieure à travers un trou, comme les grottes, hein, un trou qui laisse filtrer pas de lumière, qui fait que la paroi du fond de la caverne est éclairée et peut être un écran de cinéma, enfin d'ombre chinoise. Un écran, donc les hommes, dans leurs conditions humaines, sont tournés vers l'écran. Et ce qu'ils voient, c'est les ombres qui passent sur l'écran, sur la paroi, oui, l'écran, qui proviennent de la lumière extérieure. Et ce qu'explique Platon, c'est que ça, c'est la condition humaine dont l'expérience sensible, visuelle, corporelle, n'est qu'une expérience d'illusion, de faux semblants, de trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'on est dans un monde d'apparence. Le monde visible est un monde d'apparence. En gros, le monde visible, en tant qu'on est des corps sensibles, est un monde d'apparence. Mais il y a la possibilité d'accès au monde réel, au réel, au sens presque lacanien du terme, au réel, qui échappe, qui est quelque chose qui toujours échappe, mais il y a une possibilité de saisie, d'appréhension du réel, c'est-à-dire du vrai, chez Platon, par une sortie de la caverne. Et donc, il évoque celui qui sort de la caverne, qui se retrouve sous le soleil, qui est aveuglé d'abord, c'est douloureux, qui ne voit rien. C'est amusant parce que d'ailleurs, très empiriquement, ça correspond aux expériences que connaissent les spéléologues qui sont laissés enfermés pendant des mois et des mois. Il y en a qui ont fait ça dans une grotte complètement obscure. Quand ils ressortent, il faut prendre plein de précautions parce qu'ils ne peuvent pas s'exposer au soleil comme ça. Bref. Et c'est marrant parce que Platon, il raconte ça comme ça, quoi. Et donc, au bout d'un moment, il s'habitue au soleil. C'est douloureux quand même. L'appréhension du réel est douloureuse. Ça aveugle. Mais peu à peu, donc, on distingue ce qu'on avait pris pour des ombres en bas, c'est la réalité des êtres qui étaient invisibles du point de vue de la carrière, sauf à travers des ombres. Voilà. Après, toute la question qui se pose, c'est la question de la médiation au fond de l'humanité. Est-ce que celui qui est sorti de la caverne se doit de retourner vers les autres? On va retrouver cette problématique à travers toutes les pensées de la communauté. Donc d'abord, la communauté chrétienne, donc à travers, suggérée par Paul, mais largement après développée par Augustin, sa dualité des deux cités, sachant que pour Augustin, la cité terrestre n'est que la pâle ombre de la cité céleste. C'est très clairement posé en ces termes-là, mais c'est des termes platoniciens, au fond. Et plus largement, pour vous dire que ce n'est pas qu'un problème de religion, de philosophie religieuse, c'est un problème central, au fond, ça a inspiré toutes les pensées utopiques. C'est-à-dire que toutes les grandes utopies sociales, donc, qui ont émaillé de la Renaissance, en gros, pense aux moines dominicains de la Renaissance Campanella, Tommaso Campanella, qui invente une cité idéale, qu'il appelle d'ailleurs la cité du soleil. Et il la pense concrètement même dans une île, dont il fait les plans, dont il imagine les plans urbanistiques. Et jusqu'à toute la grande mouvance des utopistes du 19e, Fourier, d'une certaine manière Proudhon, d'une certaine manière Saint-Simon, et tous les fourieristes, Victor Considérant, etc. Enfin, des Français, il y a des utopistes anglais, je pense à Owen en particulier, qui a inspiré toute une espèce de communauté de courant qui était les pionniers de Rochdale. Je pense également à Thomas Mann, à des Allemands. Alors, en Allemagne, ça s'exprime aussi plutôt à travers la littérature, que des textes théoriques, mais il y a un grand écrivain romancier allemand qui s'appelle Hermann Hesse, H-E-2-S-E, qui a écrit un livre qui est nourri du contexte des utopies allemandes, donc c'est encore plus tardif, parce que Hesse, c'est d'un siècle, qui s'appelle Le jeu des perles de mer. C'est un roman extraordinaire, qui est très beau, il faut prendre le temps. Mais qui décrit une utopie du côté de l'éducation. C'est-à-dire une société éducative, donc avec des jeunes, des enfants, idéale. Et vous savez que dans tous les pays de langue allemande, au 19e ou au 20e siècle, il y a eu plein d'écoles utopiques qui ont tenté de se constituer. Alors, avec des courants plus ou moins problématiques, je pense que ça existe encore, par exemple les écoles Steiner. C'est nourri de toute cette tradition de l'utopie. Je pense également à une initiative utopique qui a pu fasciner beaucoup d'entre nous dans les années 70 en Angleterre, Libres Enfants de Sonorité. Donc ceci pour vous dire, et on y reviendra, qu'on n'en a jamais fini au fond avec la question de l'utopie, c'est-à-dire de la communauté utopique. On n'en a jamais fini. Ça revient constamment. On pensait que les hommes du XXe siècle, l'Européen de la seconde moitié du XXe siècle, étaient définitivement vaccinés, si j'ose dire, de cela, à cause des impasses désastreuses de la pensée utopique. Il y a un lien, il faut quand même le dire, dans l'histoire du XXe siècle, qui sont les totalitarismes, donc les fascismes nazistes. Le fasciste qui a l'idéal de communauté utopique, en fait. Le fasciste, c'est le faisceau, c'est la phalange, c'est les corporations derrière, ça s'appelle l'inscription des corporations. C'est un modèle d'utopie. Le communisme stalinien, c'est un modèle d'utopie, quoi. Donc, on aurait pu penser, on le pensait il y a longtemps, que l'Européen contemporain était définitivement vacciné par la question de l'utopie, et on se rend compte qu'il y a une espèce d'aspiration vers cela, et que ça revient, qu'il y a beaucoup à faire, effectivement. Et ceci, je crois que ça veut dire qu'on n'en a jamais fini avec la question platonicienne, de laquelle fait de raccrocher l'expérience humaine, l'humaine, trop humaine expérience de la communauté, de l'être ensemble, à une communauté invisible, mais dont on peut espérer, par des médiations, entrer en rapport avec elle, quoi. On n'en a jamais fini avec cela, quoi. Pour vous dire que ces questions que nous livre le christianisme ancien, qui sont sérieuses et qui n'ont jamais cessé de hanter la pensée de l'homme ou la pratique de l'homme dans la question de l'être ensemble, de l'être avec, de la cité, de la communauté, quels que soient les mots qu'on puisse utiliser à ce sujet. On peut montrer, par exemple, que la fondation des monastères, des ordres monastiques au Moyen-Âge, qui était tardif au Moyen-Âge, c'est les ordres monastiques. Ce qu'il faut, en toute rigueur, appeler moines, sachant que toutes les congrégations religieuses ou les ordres religieux qui viennent après, ce n'est pas des moines. Hein. Monastique, moine, monastère, ça s'apparente à la première vague d'institution d'un être ensemble de communauté dans le christianisme, et c'est à partir d'Augustin, c'est également l'autre père de l'Église qui joue un rôle déterminant, Benoît de Nursie, qui est aussi un maghrébin, comme on dirait aujourd'hui. Hein. Je le rappelle au passage, Augustin c'est un maghrébin, Benoît de Nursie c'est un maghrébin. C'est dire que l'Europe n'a jamais fini avec la question des maghrébins à l'époque. Je dis bien maghrébin, à l'époque, ce n'était pas des Arabes. À l'époque, ce ne sont que des Berbères. L'invasion arabe arrivant 2 siècles seulement, d'ailleurs, après. Donc, l'institution des monastères, c'est exactement la matrice de la pensée de la communauté utopique. Je m'étais amusé, pas amusé, ça avait été un travail sérieux, à faire le parallèle entre la règle de Benoît, qui est la règle matricielle, et un certain nombre de principes, qui sont à peu près tous les mêmes, édictés par les utopistes pour organiser les règles d'une société utopique. C'est la même chose. On peut faire un cas qui pose parfaitement. C'est les mêmes principes, les mêmes règles. Et dans la règle de Benoît, par exemple, il y a l'inspiration qui a inspiré l'expression familière dont on ne voit pas toujours l'origine, avoir voix au chapitre. Il n'a pas voix au chapitre. Le chapitre, c'est en gros l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale qui prend toutes les décisions. Or, c'est précisément la question qui agit les utopistes, c'est comment la communauté peut s'organiser, on peut dire ça d'un autre mot, la démocratie, sur une démocratie directe. Démocratie directe, où chacun exprime son fait. À voix au chapitre. Ce qu'on trouve aussi dans le modèle de la cité grecque, c'est qu'en gros, tout le monde n'est pas citoyen. Enfin, c'est un autre problème, c'est un problème sérieux qui est un peu différent de la chose. Quoi. Mais c'est un problème sérieux au sens où ça veut dire que toute pensée de la communauté, chrétienne, politique, laïque, utopique, suppose une frontière délimitante qui rejette à l'extérieur l'autre. Donc l'autre qui est rejeté revêt des figures différentes et des dénominations différentes. Ça peut être le barbare, ça peut être l'esclave, le chrétien, ça peut être tout ce qu'on veut, quoi. Effectivement, ça pose cette question-là. Mais c'est une question en tant que telle qui n'empêche que ceux qui font partie de la communauté, que ce soit la communauté monacale ou la communauté utopiste, dans tous les cas, aient pensé cette règle, s'invente cette règle de la démocratie. C'est la question qui est posée en France aujourd'hui. Est-ce que ceux qui sont étrangers peuvent participer au chapitre qui est les élections? Et ça ne rend pas la question de l'identité, de l'appartenance d'identité. La question de l'être ensemble pose ces questions-là, évidemment. Je pense qu'on retrouve, si tant est que ces analyses ne soient pas trop ethnocentrées, européano-centré. Je pense aux travaux dont j'ai déjà parlé, ce grand anthropologue et philosophe mort prématurément, qui était Pierre Clastres, qui était le meilleur connaisseur des sociétés indiennes d'Amérique latine, et notamment des Indiens Guarani, et qui a vécu avec, il a appréhendé, et il a écrit ce livre magnifique, qui est un petit livre en plus, c'est pas un pavé, dont j'ai déjà parlé par l'État Sri, qui est La société contre l'État. C'est un livre qui est paru aux éditions de Minuit dans les années 70. Et là, c'est mort d'un accident. Peu de temps après, il avait 40 et quelques années. Ce qui est fort dommage. C'est vraiment une perte de la pensée contemporaine. Pierre Clastres croit deviner dans le fonctionnement de la tribu Guarani un modèle de société que nous, on qualifierait d'utopique, quoi, à dire. Il croit donc que l'utopie n'est pas condamnée à être utopie, c'est-à-dire sans lieu, c'est-à-dire dans l'invisible, qu'elle peut être trouvée, inscrite dans le monde, et donc visible. Parce que, alors, il étudie longuement l'institution de la chefferie dans ces tribus guaranies. Et il découvre des choses à partir de ces observations qui, je crois, sont réelles. Je ne pense pas qu'il ait fantasmé ou construit, fait une construction imaginaire, et découvre que ces tribus, une de leurs préoccupations principales, c'est d'éviter l'instauration d'un pouvoir fort séparé. Séparé des membres de la tribu. Un pouvoir séparé. Et c'est le problème de l'Occident, hein, à l'intérieur. C'est-à-dire que le pouvoir devient séparé. Je vous renvoie aussi aux analyses magnifiques de Claude Lefort, qui est ce philosophe qui est mort il n'y a pas longtemps, du XXe siècle, qui s'intéressait beaucoup à l'impasse de l'utopie communiste et qui a analysé de près le stalinisme. Et un de ses livres qui résume cela d'une manière magnifique s'appelle « L'un entre eux ».« L'un entre eux ». Et il montre comment qui a dérapé dans le léninisme, dans le marxisme-léninisme-stalinisme, c'est que le pouvoir, à travers la figure du chef, Lénine, Staline, s'est séparé de la société. S'est séparé, est devenu un corps séparé. Voilà. Donc, cette question, Clastres pense l'avoir trouvée à l'œuvre dans les préoccupations des Indiens guaranis. Et donc, il montre comment ils instituent, en forme de réponse à ce problème, un chef, une institution qui est la chefferie, qui n'a aucun pouvoir, mais qui est essentiel pour l'unité de la communauté, mais sans pouvoir. Alors, en particulier, dit-il, la désignation du chef, donc c'est le chapitre qui désigne le chef, c'est une forme d'élection, si vous voulez. Il y a deux règles qui régissent ce processus de désignation du chef. La première règle, on va prendre comme chef celui dont on est sûr qu'il ne veut surtout pas l'être. Donc le chef est celui qui ne voudra pas l'être. Donc le chef, c'est une obligation. C'est une servitude. Premier élément, qui me pensait intéressant. Et l'autre règle, c'est que le chef, du coup, a avant tout des devoirs. Et le devoir principal qu'on exige du chef, donc celui qui sera désigné chef, c'est celui qui accepte de l'assumer, c'est un devoir de parole. Alors tout de suite, on se dit, ah ben la parole, c'est un nouveau pouvoir. Sauf que, donc le chef, Clastres observe cela, le chef parle, tout le temps. Mais, c'est une parole non-pouvoir. C'est-à-dire que les membres de la tribu ne l'écoutent pas. Il montre comment il a assisté à des scènes. Pendant que le chef parle, il y en a qui peuvent parler entre eux, parallèlement, ou vaquer à des occupations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il ne se constitue pas, dit-il, une scène de la parole sacralisée, une scène de prophète qui aurait une parole pour là. Ça, tout ça est intéressant. Sauf que, et c'est la dernière partie du livre qui est plus pessimiste, déceptive, il montre que cette cohésion, l'unité de l'être ensemble de la tribu n'est possible que au prix de quelque chose qui reste à l'ombre comme ça, mais qui est agissant, qui est que les tribus entre elles sont dans un état de guerre permanente. C'est-à-dire que leur unité est liée au fait que l'autre tribu est une menace de mort permanente. Et quand la guerre est ouverte et déclarée, n'est plus qu'un danger, n'est plus seulement un danger potentiel, une menace qui plane, et qui a vraiment la guerre, l'espace, la turbulence, etc. Dans ce cas-là, il y a une autre figure qui apparaît, qui est le sorcier chaman, que Plastre assimile à la figure du prophète. C'est-à-dire, le sorcier a une parole prophétique parce que son rôle, ça va être de prédire l'issue de la guerre et d'indiquer les voies possibles d'une issue victorieuse de la guerre. Et là, Plastre termine sa réflexion là-dessus. Peut-être que c'est dans cette figure du sorcier qui joue un rôle central dans l'état de guerre que l'on peut voir l'embryon d'un pouvoir d'état fort. C'est très honnête de sa part, il aurait pu en rester à la belle femme du début, qui n'est pas une femme, mais qui est une femme si on ne voit pas un aspect qu'il développe à la fin. Si on se situe du point de vue de la pensée, de la philosophie christo-catholicienne, la réponse est claire et nette. L'être ensemble et bien ne peut tenir que parce qu'il y a un principe extérieur. C'est la fameuse aporie platonicienne qui n'a cessé d'explorer les néo-platoniciens jusqu'au dernier, le plus grand qui est Damasus, qui est la question suivante. C'est formulé d'une façon quasi mathématique chez Platon, abstraite, mais ça renvoie à des enjeux pratiques et notamment ceux qui sont. On peut dire que la communauté se constitue comme un tout. C'est une forme de totalité. La question d'un tout, c'est qu'il soit régi par une unité, l'unité du tout. Platon exprime l'idée qu'il faut qu'il y ait un principe qui unifie, donc qui nomme là. Là. Ce principe qui est là, la UL, hein, c'est le principe agissant qui unifie le tout, par exemple la communauté. La question qu'il pose après, c'est notamment les hypothèses de Parménide, les néoplatoniciens vont sans adresse ressasser, c'est la suivante, elle est redoutable. Elle est redoutable dans la formulation parce que c'est une formulation très pure, très mathématique. Là, qui est le principe là, est-ce qu'il fait partie du tout et est-ce qu'il est extérieur au tout ? S'il fait partie du tout, c'est une partie du tout. Si c'est une partie du tout, ce n'est pas le principe du tout. Parce qu'une partie du tout introduit le principe du pluriel, du multiple. Donc là, comme partie du tout, est un élément pluriel du tout. Donc ce n'est pas le principe. Maintenant, si l'un est extérieur au tout, ce qui découle de cette première aporie. Aporie, tu vous rappelles que c'est un mot grec, traduit comme ça en français, qui est a privatif, poros. Poros, c'est un très beau mot qui indique le chemin d'un port au départ. La voie de passage. Une aporie, c'est l'absence de voie de passage. C'est une impasse. Donc, pour résoudre cette première aporie, qui réintroduit du pluriel, l'idée c'est que l'un, le principe unificateur du tout, est extérieur. Donc l'un, principe séparé, extérieur au tout. Mais si l'un est extérieur au tout, le tout n'est pas le tout. Le tout n'est pas le tout. Vu qu'il y a quelque chose qui est extérieur. Et je peux vous dire que Platon, voilà, a nourri toute la réflexion des néo-platoniciens, donc tous ces philosophes qui se succèdent jusqu'au 5e siècle à Cluse, donc Damasus, le 5e siècle, et ils ont tourné autour de ça sans le résoudre. C'est une question anthropologique, historique, humaine. C'est-à-dire que cette formulation pure mathématique, on la retrouve à l'œuvre. Et ça pose la question de quelque chose. La réponse de Platon, c'est quand même, qu'en dernier ressort, Platon apporte une réponse, un point de vue là-dessus, une position. C'est que l'un est extérieur au tout. Il y a un principe, un premier principe, ce que Damasius après appelle les premiers principes, qui est extérieur. Mais c'est un plan vertical. Après, ça devient compliqué. Là, je ne vais pas le résumer en tant que tel parce qu'il faudrait prendre des textes. Les néoplatoniciens introduisent la notion de participation. C'est-à-dire qu'en gros, c'est extérieur au tout, mais ça traverse toutes les strates, tous les degrés de l'être jusqu'à la matière. C'est en même temps, si on prend le plan vertical tout en haut, mais en même temps, ça traverse toutes les strates, tous les degrés, premier degré qui est l'être pur, jusqu'au dernier degré qui est l'être dispersé, dégradé, chaotique, qui est la matière. Ça traverse, ça inspire tous les degrés d'être, c'est ce qu'il appelle la participation, la notion de participation. Donc, ceci pour dire, terminons sur Paul, et je voudrais quand même terminer sur Augustin aujourd'hui, ceci pour dire que pose comme principe, comme fondement Paul, on voit tout ce que ça inspire comme question, comme débat, comme historique. Ce n'est pas donc une vieille histoire dépassée. C'est donc ce plan de verticalité où Dieu, un principe, unifie la communauté par la réponse qui est la participation. La communion, c'est la participation platonicienne à ce principe extérieur, absolu, séparé, en haut, mais qui traverse tous les degrés jusqu'au plus dégradé de l'être. Et que Jésus est ce médiateur qui permet la participation sur les degrés, y compris les degrés dégradés, d'où l'assistance de Paul, des évangiles, etc., sur le fait que Jésus contamine, inspire les humains les plus dégradés, prostituées, les pauvres, les pierres exclues, oui. Donc là, on a le modèle platonicien et néoplatonicien complètement à l'œuvre dans cette vision christique et paulinienne. Et se met en place, selon le plan de la verticalité, le fait qu'il y a deux degrés, que la question de l'être ensemble se situe à deux degrés de l'être, un degré vers le haut, et le degré vers le régime humain, le plan humain dégradé, chaotique, de l'être dégradé. Donc il y a la communauté humaine, la cité humaine, et la cité invisible, la cité de Dieu. D'où le titre du principal livre d'Augustin, qui lui tasse des lieux. Ou ce que, dans d'autres termes, on peut nommer la Jérusalem céleste. Voilà. Alors, on voit que ceci est à prendre au sérieux, encore une fois, c'est ces plans du rapport, c'est la caverne, c'est toutes les utopies, etc. Mais le problème qui se pose du point de vue d'une anthropologie, c'est-à-dire du point de vue d'une réflexion sur l'histoire humaine, c'est que, clairement, ça veut dire que la communauté humaine, terrestre, n'échappe pas au fait d'être dirigée par la question du mal, du manque, du péché et de la mort. Et que la seule médiation qui puisse raccrocher le terrestre au monde invisible de l'être pur, la seule médiation, c'est le corps de Jésus qui, du point de vue du plan humain, est mort. C'est le sacrifice, la mort, sur le plan humain, de Jésus. Voilà, ça, c'est le nœud paulinien. Alors, à partir de là, qu'en fait Augustin ? Donc, je vous ai donné un certain nombre de textes qu'on va parcourir plus ou moins rapidement. Alors, examinons, mais vraiment en deux secondes, parce que je ne vais pas m'étendre, autrement, ça ne sortira pas, il faudrait consacrer l'année quasiment à le texte d'Augustin. Le premier texte que je vous ai donné, qui fait en une page, et les confessions du Prodice, chapitre 4, qu'il espère de cette confession. Il espère de cette. Je voudrais que nous arrêtions au début du paragraphe 6, que j'ai mis en gras. C'est le seul petit passage qui m'intéresse là, sachant que c'est un exemple parmi plein d'autres. Donc, voilà le fruit de ma confession présente, c'est l'aveu même. Donc plus en présence de vous seul, non plus par en présence de vous seul, dans le secret de la joie et de la tristesse qui espère. Excusez-moi, j'ai mal. Mais publié à la face des enfants des hommes, associé à ma foi et mon allégresse, hôte comme moi de la mortalité, citoyen de ma cité, voyageur comme moi, prédécesseur, successeur et compagnon de mon pèlerinage. Alors, ça fait allusion à plusieurs choses, donc y compris, ce sont des confessions, hein, donc c'est un genre littéraire qu'Augustin invente. Hein, et Augustin, de ce point de vue-là, est le précurseur de Rousseau, et des confessions de Rousseau. C'est-à-dire l'importance, y compris littéraire, philosophique, etc., d'Augustin. Il invente un genre ou un moi, alors qu'on est dans l'Antiquité où l'individu pensé comme égo, comme moi, je, n'existe pas anthropologiquement. Et Augustin est un précurseur du moi-je, de l'individu, qui se pense comme un moi, et qui va mettre en scène, par l'écrit, ce moi-je. C'est ça les conflits. Donc la fin de ce passage évoque simplement la trajectoire de vie d'Augustin, c'est que du coup, la mise en scène du moi-je, ça va être à travers une espèce d'autobiographie. On peut entendre les confessions comme une autobiographie, voire on peut l'entendre comme ce que les écrivains contemporains appellent une autofiction. Si l'on considère, et c'était déjà une question très clairement posée par Rousseau et Grimm, si l'on considère que la mise par écrit des faits de sa vie, c'est une fiction. Ce n'est pas une pure restitution derrière. Bref. Donc là, c'est l'allusion au fait, hein, je l'avais évoqué l'autre fois dans la présentation de la vie d'Augustin, que Augustin a beaucoup pérégriné, voyagé, il a fait ses études à Rome, etc., avant de se refixer à Hippone, où il viendra évêque plus tard, et de fonder une communauté en famille, d'ailleurs, il vit en communauté. Donc, avant d'édifier une communauté de vie, Augustin aura donc pérégriné. C'est voyageur comme moi, prédécesseur, successeur, compagnon de mon pèlerinage, c'est ce à quoi il fait allusion. Il fait allusion là à ceux, aux amis qu'il va retrouver dans l'actuelle Algérie, pour vivre ensemble de façon communautaire. Mais dans cette phrase, ce qui m'intéresse et ce qui est important comme occurrence, qui est entre deux segments côte à côte, hôte comme moi de la mortalité, citoyen de la cité. C'est-à-dire qu'au fond, derrière ça, on voit comment pour Augustin, le commun, comme on dit aujourd'hui, le commun, quoi de commun ? À nous, il n'est possible que s'il y a un commun. Et bien, le commun, c'est que nous sommes des êtres mortels. Et sans arrêt, menacés par la mort, par le danger de la mort. C'est-à-dire que Augustin écrit en latin, le terme latin qui revient sans arrêt dans plein d'occurrences de ces textes, c'est morituri. Morituri, c'est au français, c'est que nous soyons mortels. Morituri, c'est être fait de la mort. C'est ce que Heidegger, que j'avais rapidement évoqué l'autre fois, le philosophe allemand, Heidegger, a nommé l'être pour la mort. C'est-à-dire nous sommes des êtres pour la mort. L'être pour la mort. C'est la même idée. Morituri, c'est l'être pour la mort. Nous sommes des êtres pour la mort. C'est ce que nous avons en commun. Et c'est ce qui fonde notre citoyenneté, notre cité. Notre cité où nous sommes membres citoyens. Où nous sommes membres citoyens. C'est parce que nous avons ce commun. Voilà, donc ça c'est une petite occurrence. Mais encore une fois, cette idée, on la retrouve, elle émaille tous ces textes. Bon, je n'en dis pas plus par rapport à ce que-là. Alors, on ne va pas commencer par le début, parce qu'on ne va pas tout lire ensemble, ça serait beaucoup trop long. On va commenter ensemble quelques passages. On va commencer par le chapitre 15. On va lire, qui est tout de suite dans la page 93, donc en dessous du titre, livre 15, car il y avait une figure successive des deux cités. Donc les deux cités, d'accord, hein. La terrestre dans l'ombre, l'utopie, la céleste. On va commencer par lire, bien que ça ne soit pas d'Augustin, mais c'est clair, le texte en italique, qui est dans cette édition, c'est très bien fait, c'est un commentaire du traducteur et l'auteur qui résume le chapitre, d'accord, et résume de façon très éclairée. Quatre livres sont maintenant consacrés au progrès et au développement des deux cités. Ça, c'est central. On est au cœur de notre interrogation. Le développement des deux cités est symbolisé par trois couples d'hommes, Caïn et Abel, Romulus et Rémus, Ismaël et Isaac, les deux fils d'Abraham. Ces deux naissances de fils d'Abraham servent de clé à Auguste pour interpréter les figures de Caïn et Abel et même les deux cités. Donc c'est très clair, vous pouvez le lire si on ne lit pas dans le détail dans tout chapitre chez Augustin. Cette binarité que j'évoquais tout à l'heure, elle se reproduit constamment dans l'histoire des fondations des cités. Constamment. C'est-à-dire qu'il y a des enchaînements, c'est-à-dire qu'en gros, ce qui est plus proche de lui et dont il est contemporain, c'est Rome. Rome, c'est fondée par Romulus et Rémus. C'est la réplique de Caïn et Abel. Et Caïn entre les deux, donc là on suit l'enchaînement qu'on a eu logique, c'est la réplique de la dispute Agar et Sarah, et donc Isaac, les fils de Chéthé et Montrèze, Ismaël et Isaac. Donc il y a l'histoire humaine obéit à cet enchaînement qui se reproduit à chaque étape. Alors, comment on peut résumer ces figures de la binarité? La jalousie est posée au principe de la division des deux cités. Et l'exemple de Rémus tué par son frère Romulus confirme la jeunesse. Mais les bons eux-mêmes ne sont pas... C'est là qu'on voit que ça traverse tout, et ce qu'on disait tout à l'heure, l'homme lui-même. Mais les bons eux-mêmes ne sont pas... Donc, ce n'est pas simplement... l'exclusion des mauvais par rapport à ceux qui s'instituent comme bons, c'est une exclusion, une auto-exclusion. L'homme est divisé. L'homme est divisé. Alors, dans l'horizon chrétien, l'homme est divisé, pourquoi? Et là, on retrouve la question du péché originel. C'est-à-dire qu'il y a une tare première qui est le péché originel. Et le mal est mal. Mais, ce qui est très étrange, c'est que ce n'est pas qu'un problème chrétien. L'islam, c'est une dérivation du christianisme. Et d'ailleurs, y compris avec la part platonicienne. C'est pour ça que les derniers grands philosophes platoniciens, qui correspondent au 12e, 13e, 14e siècle de notre ère, sont musulmans. On la retrouve aussi dans l'horizon grec. Dans le polythéisme grec. Et Platon reprend ce qui est une mythologie, un mythe, le mythe de l'androgyne. C'est-à-dire que ce que Platon explique, c'est que l'homme premier était un homme androgyne. Androgyne, en grec, c'est veut dire, je vous le rappelle, littéralement, homme, andro. C'est andros, aner au nominatif, andros au génitif. Ça veut dire l'homme. L'homme au sens du latin. Vir, pas homo, hein, vir. Vir, c'est, ça donnait une unité, le mâle, le masculin, le mâle. Donc Andro, ça donnait le prénom André, entre parenthèses. Hein. Andro, et Gyn, c'est Gounet en grec, G-U-N, accent, qui veut dire, qui a donné gynécologie, misogyne, etc. C'est la femme. Donc androgyne, c'est littéralement homme-femme. Et donc, le mythe que reprend Platon de l'androgyne, c'est que dans un long premier temps âge heureux, la communauté humaine était composée d'hommes-femmes. Et donc, il y a même des descriptions assez amusantes, c'est que, du coup, c'est des êtres qui avaient quatre membres, quatre bras, quatre jambes, huit membres, quatre bras, quatre jambes, et donc qui étaient d'une surpuissance qui pouvait se mouvoir dans tous les sens, qui était très puissant. Et d'avoir voulu être trop puissant et faire usage de sa puissance leur a valu une punition des dieux. C'est-à-dire que les dieux, donc Zeus, se sont sentis menacés par l'ambition des hommes, et du coup, Zeus envoie les titans, qui donnent le mot titan, les théories, un nom théologique grec, qui sont, comme le nom commun le suggère, des hommes-dieux, donc des médiateurs qui sont extrêmement forts, et les titans vont punir les hommes. Et ils vont punir les hommes, comment? En divisant les hommes. Donc la division, on la retrouve dans cette origine. L'homme divisé, on la retrouve, c'est qu'en gros, ils passent les hommes, les androgynes, au fil du rasoir, et les coupent en deux. Et du coup, on est ces hommes divisés, amoindris, vaincus. Frédéric de France, quand elle viendra en juillet, évoquera cette question qui est très importante. C'est que c'est un mythe fondateur. Il faut concevoir que toute communauté, toute société, c'est un autre camp du débat, a été fondée sur des mythes fondateurs. La question c'est, est-ce qu'on peut faire l'économie avec des mythes fondateurs? Il faut convenir que la société grecque, une parmi d'autres, est fondée sur un certain nombre de mythes, et notamment toute la théogonie, l'engendrement des dieux, etc. C'est une théogonie. Mais que Platon, dans son effort de tenter de penser vrai, c'est-à-dire au-delà des apparences et des histoires à dormir debout et des trompe-l'œil, prend au sérieux les mythes. Alors, que ça soit clair, Platon considère que les mythes sont des discours qui ne disent pas le vrai. Pour lui, le vrai n'est pas dans les mythes. Mais il dit que les mythes sont une matière à penser, c'est-à-dire qu'il y a une part de vrai qui se loge dans les mythes. Ceci pour dire que Platon s'intéresse de près au mythe d'androgyne, en disant, il le prend au sérieux tout en sachant que c'est un récit qui n'est pas le vrai en tant que tel. Mais il utilise une matière à réflexion. Bon. Sans emprunt maintenant dans la question des mythes et du statut des mythes et de l'utilité ou de la nuisibilité des mythes, je veux dire simplement que cette idée de l'homme divisé par une faute, vous voyez, on la retrouve donc non seulement dans l'horizon chrétien, mais dans l'horizon polythéiste des Grecs. Et que c'est probablement une réalité anthropologique, parce que je veux bien qu'on échappe à ce mythe de l'homme divisé, mais admettons qu'il y a une part de vérité là-dedans quand même, dans l'expérience humaine, dans l'expérience. Est-ce qu'on n'est pas divisé? Celui qui ne se sent pas divisé, lève le doigt. Dans la citation de Paul, quelque chose de très intéressant, sous-jacent la même idée, porter mutuellement les fardeaux les uns des autres. Et vous accompagnez la loi de Christ. Ça veut dire qu'une raison majeure de la solidarité, c'est-à-dire de l'unité communautaire, de l'unité communielle des hommes, c'est porter ses fardeaux, de s'aider à porter le fardeau. C'est-à-dire qu'on comprend derrière cette phrase que s'il n'y a pas de fardeau, il n'y aurait pas de nécessité à se relier. Donc, on retrouve toujours et toujours la même idée insistante, c'est-à-dire que la base de l'être ensemble est négative. Nous donnons encore le nom mystique de cité à ces deux sociétés humaines, l'une prédestinée, vous citez le passage, à vivre éternellement avec Dieu, donc ça c'est la cité idéale, l'autre à souffrir un éternel supplice avec le Dieu. Encore une fois, une nouvelle occurrence du même problème, la cité humaine est régie par le démon. Le démon, c'est-à-dire le mal, la figure du mal. Donc, telle est leur fin dont nous traiterons plus tard, c'est la fin de la cité humaine, c'est la confrontation au mal. Et c'est ce qui divise les deux cités. Alors, je continue page 196, en haut. C'est en effet cet espace de temps, autrement dit le siècle, donc le siècle c'est le temps historique, hein. rapide succession de morts et de naissances qui forment le cours des deux siècles. Donc on retrouve l'idée que l'homme historique, c'est un être de la mort. On est pour mourir. Rapide succession de morts et de naissances. Donc, le premier dé des deux auteurs du genre humain est qu'un. Tout le monde a en tête, peut-être faut rappeler deux, trois principes, je ne sais pas si tout le monde a l'épisode biblique de la Genèse de Caïn et Abel. Donc Caïn et Abel, c'est le quatrième chapitre de la Genèse, donc c'est au début de la Genèse. Caïn et Abel sont fils d'Adam et Ève. Donc c'est les hommes qui arrivent après la scène fondatrice et après la scène de l'éviction de l'Éden. Adam et Ève sont ceux par qui l'homme est chassé de l'Éden. Bon, je ne rappelle pas l'épisode, vous savez. Simplement, il faut avoir en tête une chose que j'avais évoquée l'autre fois. La cause de la faute, enfin la cause de l'éviction du jardin d'Éden, c'est la transgression par rapport à la parole divine, c'est que le genre humain a mangé de la pomme. La pomme, en fait, c'est l'arbre, le pommier, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait, c'est ça. Vous savez qu'il y a deux arbres dans l'Éden qui font l'objet d'un interdit divin. C'est l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. La connaissance du bien et du mal. La connaissance. La faute, c'est d'avoir touché au fruit de la connaissance. Dans l'anthropologie biblique, d'ailleurs, c'est une parenthèse, on peut se demander si l'homme contemporain n'est pas en train, de ce point de vue-là, d'accomplir la seconde faute, c'est-à-dire d'accomplir le fait de toucher au fruit de l'autre arbre, l'arbre de vie. C'est-à-dire qu'au fond, il faut prendre au sérieux les débats philosophiques, métaphysiques et anthropologiques qui touchent à la question de ce que Jacques Lestard, l'un des deux fondateurs du bébé éprouvette, avait nommé l'œuf transparent. C'est à la possibilité d'intervenir dans la vie. Du point de vue, dans l'horizon biblique, prenons-le d'un point de vue non religieux, c'est vrai que ça a à voir avec l'interdit relatif au second arbre. Et vous savez que toute une tradition littéraire qui a hanté l'Europe, c'est précisément que l'œuf implique un être soit lui-même à la source d'un être. Que ce soit aussi bien le golem, que ce soit toute la tradition littéraire autour, même contemporaine, on trouve ça dans la science-fiction, de l'homme-robot, etc. C'est une hantise permanente de l'humain qui ne lâche jamais de morceau. Et aujourd'hui, à travers la science, la biogénétique, l'homme pense qu'il est prêt d'arracher le morceau.
Pardon ? De supprimer la mort.
Maîtriser la vie et le corollaire, supprimer la mort. Donc, Caïn et Abel viennent après, ce sont les fils des fauteurs, et vont reproduire cette arme première. Alors, ce qui est intéressant à observer, c'est que Caïn est cultivateur, Abel est nomade, il est berger. C'est important. Pourquoi ? Donc, les deux, je rappelle rapidement l'épisode biblique, les deux donc, offrent, ils sont quand même pieux, offrent un sacrifice à Yahvé, à Dieu, donc en fonction de leur métier respectif. Car offrent les produits du sol, Abel le premier-né de son troupeau, et il se trouve que seul l'offrande d'Abel est agréée par le divin. Et que l'offrande produit de la terre de l'agriculteur Caïn n'est pas agréée. Il en résulte une jalousie. On pourrait vraiment réfléchir là-dessus. Je vous signale entre parenthèses que le discours le plus poussé d'un point de vue métaphysique des théoriciens d'extrême droite, c'est d'opposer le peuple sédentaire du sol au peuple du nomade. C'est-à-dire que c'est important, ça. Donc, jalousie de Caïn qui va commettre l'irréparable, c'est-à-dire le meurtre de son frère. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est repris par Augustin, par le christianisme, mais que le christianisme, et Augustin en particulier, met l'accent sur le fait que le fondateur de la communauté, le fondateur de l'être ensemble humain, le fondateur de la cité humaine, c'est Caïn. C'est Caïn qui bâtit la cité humaine. Donc c'est le meurtrier qui bâtit la cité humaine. Donc on peut lire la suite, là, mais enfin qui développe ça. Je lis quand même la page 96 rapidement pour entendre, même en traduction, la langue d'Augustin. Donc le premier-né des deux auteurs du genre humain est Caïn, qui appartient à la cité des hommes. Caïn appartient à la cité des hommes. Le second Abel, qui appartient à la cité de Dieu. La coupure, la césure entre les deux cités est fondée là. Or, comme chaque homme est la preuve vivante de cette parole de l'apôtre, que ce n'est pas l'élément spirituel qui précède, mais l'élément animal d'abord, puis spirituel, d'où il suit que chacun de nous, en tant qu'issu d'une race condamnée, naît d'Adam, méchant et charnel, et ne devient bon et spirituel que par la suite, qu'à la condition de renaître et de croître en Jésus-Christ. On retrouve toujours le même schéma, le même esprit. Ainsi, lorsque les deux cités commencèrent à naître et à mourir, la première naissance que nous présente le jour est celle du citoyen du monde, de ce monde, pardon, la seconde, celle du citoyen de la cité de Dieu, étranger en ce monde. Prédestiné par la grâce, élu par la grâce étranger ici-bas, par la grâce citoyen d'en haut. Car, pour lui-même, il sort de ce fond condamné dès l'origine, mais Dieu semblable à un potier. On retrouve toujours la métaphore du potier qu'on trouve chez Platon et ça. C'est pour ça que l'artisanat d'art de la céramique, c'est très noble. Ah non, je pense sincèrement, il y a quelque chose de très profond qui est. C'est pas un hasard, ça sert de métaphore récurrente. Ce qu'on retrouve même au XXe siècle après un philosophe comme Bachelard. Donc, c'est la comparaison dont se sert l'apôtre à dessein et non pas au hasard. Donc, il souligne Augustin pour dire que cette image, c'est pas une image fortuite, c'est une image pensée. À dessein et non au hasard, cette métaphore. Alors, terminons rapidement. Dieu tire de la même matière un vase d'honneur et un vase d'ignominie. Or, le vase d'ignominie est formé le premier, puis le vase d'honneur, enfin, il répète la même idée, puis le vase d'honneur. Car en chaque homme, je le répète, l'élément mauvais précède, par où il faut nécessairement commencer, mais où la nécessité ne nous condamne pas à de mauvais. Alors, on viendra sur Rousseau, qui, de ce point de vue-là, s'oppose à Hobbes. Donc, je saute les deux, trois lignes qui suivent pour terminer la page. Or, l'Écriture dit que Caïn, pardon, l'Écriture dit de Caïn qu'il a bâti une cité. Abel pèlera sur la terre, ne bâtit rien. Car la cité des saints est au ciel, c'est une utopie. Quoiqu'elle enfante ici-bas des citoyens, c'est mort de vivre jusqu'à l'avènement. Donc, voilà. Et ce qui est essentiel à entendre, c'est ça, c'est que le fondateur de la communauté, de la cité, c'est Caïn, le meurtrier,